suite, vous retrouvez le journal d'Haïti et des Amériques avec Marion Cazanov.
Merci Anne Mignard. Il est 9h10 à Port-au-Prince et à Brunswick, en Géorgie.
We the jury find the defendant Travis McMichael guilty.
Et à la une, le soulagement, vous l'entendez, du père d'Armaud Arbery après la condamnation de trois hommes blancs aux États-Unis pour le meurtre de ce jeune Afro-Américain tué alors qu'il faisait son jogging en février 2020. Verdict salué par le président Joe Biden. Dans la revue de presse, Marie Normand nous parlera d'une nouvelle vague d'arrestations au Nicaragua. Les taux se resserrent autour des dernières voix critiques du régime Ortega. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. On abordera le sujet vu d'Amérique latine au Mexique et au Chili. Et puis on ira dans les Caraïbes avec le journal des Outre-mer. Ce sera avec vous, Benoît Ferrand. Vous aborderez la reprise de négociations entre l'État et l'intersyndicale en Martinique.
Oui, le préfet a finalement, semble-t-il, accepté un compromis élaboré sous l'égide de la collectivité territoriale. Les discussions devraient donc s'ouvrir à 10h locales ce matin, 15h cet après-midi, heure de métropole.
À tout à l'heure, Benoît. L'affaire avait alimenté le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, celle du meurtre d'un Afro-Américain tué alors qu'il faisait son jogging dans une ville de Géorgie en février 2020. Trois hommes blancs avaient poursuivi Armaud Arbery avant de le tuer par balle. Après un mois de procès, ces derniers ont été jugés coupables de meurtre. Et signe de l'importance de ce procès, le président américain Joe Biden a immédiatement salué le verdict tout en rappelant qu'il y a encore beaucoup de travail pour parvenir à l'égalité aux États-Unis. Correspondance de David Thompson.
Les accusés invoquaient la légitime défense au nom d'une loi autorisant les arrestations citoyennes en Géorgie. Une loi datant de 1863, autrefois utilisée pour chasser les esclaves en fuite. Leur défense n'a pas convaincu le jury, qui ne comptait pourtant qu'un seul noir. Quand ces trois hommes blancs ont pris en chasse Armaud Arbery au volant de leur pick-up, l'afro-américain de 25 ans ne faisait que son footing et lui n'était pas armé lorsqu'il a été abattu d'un coup de fusil après une altercation. À l'énoncé du verdict coupable de tous les chefs d'accusation, dont celui de meurtre, la mère d'Armaud Arbery est submergée par l'émotion.
Je croyais que ce jour ne viendrait jamais. Maintenant, Armaud peut reposer en paix.
Dans cet état du Sud marqué par le racisme et la ségrégation, il avait fallu attendre plus de deux mois pour que les trois meurtriers soient arrêtés, uniquement après la diffusion de la vidéo du meurtre par leur propre avocat qui croyait ainsi les disculper. Ces images avaient au contraire horrifié l'Amérique et alimenté les manifestations antiracistes de l'été 2020. David Thompson, Miami, RFI.
Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Et Marie Normand pour la revue de presse. Verdict fait aussi la une de la presse aux États-Unis.
Oui, pour le Miami Herald, cela n'a pas seulement été un soulagement hier, mais une véritable expiration après des semaines d'inquiétude. La peur que la défense ne parvienne à influencer un jury majoritairement blanc. L'avocate de la défense était même allée jusqu'à décrire les ongles d'orteils sales de la victime, rappelle le journal. Pour le Daily News de New York, c'est une leçon à une Amérique habituée à sauter par réflexe sur des conclusions politiques erronées. Quelques jours après avoir reconnu l'acte de Cal Rittenhouse comme un acte de légitime défense, un autre jury a rejeté à juste titre des demandes de légitime défense sans fondement, pense le journal. Et quelques jours seulement après que certains défenseurs et hommes politiques aient déclaré le système judiciaire américain incapable de rendre justice dans une affaire à connotation raciale, eh bien ce même système a condamné trois hommes blancs pour le meurtre d'un homme noir. De quoi restaurer la confiance dans le système judiciaire, pense aussi le Washington Post.
Et maintenant, c'est la question posée par les journaux aujourd'hui.
Oui, quelle suite ? Le Savannah Morning News rappelle que les trois condamnés peuvent et vont probablement faire appel. Le Washington Post estime en tout cas que justice est rendue, mais rappelle que le meurtre d'Arbery a failli être étouffé par les autorités de Géorgie. Les trois hommes sont restés en liberté pendant plusieurs semaines. Les procureurs initialement chargés de l'affaire ont soutenu que la fusillade ne constituait pas un véritable crime avant la publication de cette fameuse vidéo qui a suscité l'émoi et entraîné des arrestations. Pour USA Today, la tâche de parvenir à l'égalité raciale reste inachevée tant qu'il restera des coins de la société américaine où un Armaud Arbery peut être tué pour aucune autre raison que celle de la couleur de sa peau. Un meurtre qui, selon ce même quotidien, présente toutes les caractéristiques d'un lynchage.
Et ailleurs sur le continent, Marie, une nouvelle vague d'arrestations au Nicaragua.
Avec cette dernière figure arrêtée il y a 3 jours maintenant, Edgar Parrales, ancien représentant du Nicaragua auprès de l'Organisation des États américains, un ancien prêtre, aujourd'hui politologue, pardon, il a 79 ans, c'est un ancien sandiniste, et il a l'habitude de donner son avis sans cacher son identité. Selon la prensa, il est le détenu le plus âgé de cette vague d'emprisonnement débuté il y a 181 jours maintenant. Vilma Núñez, la présidente du CENID, le Centre nicaraguayen pour les droits de l'homme, dénonce cette nouvelle arrestation.
C'est l'une des voix critiques, des voix libres qui étaient restées dans le pays. Donc ils l'ont arrêtée de manière totalement irrégulière, comme le sont quasiment toutes les arrestations. Dans ce cas, les agents de police ont agi comme des délinquants. 2 personnes en civil dans une voiture bleue qui n'appartient pas à la police. La famille a réussi à savoir qu'ils le détiennent illégalement dans la prison d'El Chipote.
Vilma Núñez du CENID au micro d'Aïda Palau.
Direction le Chili maintenant, où la campagne pour le second tour de la présidentielle le 19 décembre est lancée, avec des incidents hier autour d'un déplacement du candidat d'extrême droite, José Antonio Kast, arrivé en tête du premier tour, Marie.
Oui, son attaché de presse, une femme enceinte, a été bousculée et un de ses principaux conseillers s'est fait cracher dessus, écrit La Tercera aujourd'hui. Le candidat a dû quitter cette activité de campagne dans le sud de Santiago sous les insultes et sous les cris. Escorté par la police, des œufs ont été jetés sur sa voiture. José Antonio Kast considère que tout était organisé. Son adversaire, de son côté, a appelé au dialogue et rejeté cette agression, qualifiée de violente également par El Mercurio.
Et puis au Mexique, l'Institut national des migrations accorde plus de 3200 visas humanitaires à des migrants qui traversent actuellement son territoire.
Oui, les membres d'une nouvelle caravane de migrants qui se trouve actuellement à Veracruz, selon la Razón. Le journal précise que ce visa va leur permettre d'accéder à un emploi, de se déplacer dans le pays sans aucun problème et de poursuivre leur processus de demande d'asile. Une autre caravane composée d'Haïtiens partira demain de Tapachula, c'est au sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala, selon la Razón. 40 000 personnes originaires d'Haïti ont déjà déposé une demande d'asile au Mexique et attendent maintenant une réponse de la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés. Selon Milenio, les États-Unis vont commencer à remettre en œuvre ce fameux protocole de protection des migrants mis en place par l'ancien président Trump, plus connu sous le nom de « Rester au Mexique ». Dans les villes de San Diego, Brownsville, El Paso, qui bordent respectivement Tijuana, Matamoros et Ciudad Juárez, un protocole qui oblige les migrants à rester sur le territoire mexicain le temps que les autorités américaines délibèrent sur leur demande d'asile. Mais pour l'instant, le Mexique n'a pas encore accepté les conditions ordonnées par la Cour suprême américaine.
Merci Marie Normand, c'était la revue de presse des Amériques.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Alors que des migrants haïtiens obtiennent ces visas humanitaires, en Haïti, on change de gouvernement. On en parle avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Marion.
Le Premier ministre Ariel Henry a finalement opéré un remaniement ministériel hier. Vous l'expliquez dans votre édito, il fait presque table rase de l'ancien cabinet du président assassiné au mois de juillet, Jovenel Moïse.
Tout à fait, le Premier ministre Ariel Henry, 4 mois après avoir été investi Premier ministre, prend la main. Cette fois, c'est un gouvernement qu'il a forgé lui-même, avec moins de pression des anciens amis du président Jovenel Moïse et d'autres partis politiques qui étaient dans la majorité du président Moïse. Cette fois, le Premier ministre a fait son gouvernement, il a changé 8 ministres, 8 ministres importants. Et aujourd'hui, il ne garde plus qu'un seul ministre qui avait été nommé par Jovenel Moïse dans son gouvernement, celui de l'économie et des finances. Sinon, c'est le Premier ministre Ariel Henry qui a choisi, qui a décidé et qui a monté son gouvernement.
Et au-delà de ça, Franz, pas de vrai changement dans la composition. Il y a toujours 18 ministres. Est-ce que c'est trop pour certains? Et est-ce que ce cabinet est de nature à répondre aux urgences actuelles en Haïti?
Alors, le Nouvelliste le dit dans l'éditorial du jour. On va voir à l'œuvre ces nouveaux ministres. On va voir comment va fonctionner ce nouvel attelage. Bien entendu, beaucoup se plaignent qu'on garde encore 18 ministères, alors que beaucoup des ministères, depuis quelques années, n'ont pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de moyens. Haïti vit de déficit budgétaire en déficit budgétaire depuis maintenant quasiment 4 ans. Il n'y a pas grand-chose qui va changer dans les jours qui viennent. On attend de ce gouvernement beaucoup de miracles, mais en même temps, tout le monde est un peu sceptique parce que les 4 derniers mois, avec le gouvernement précédent, très peu de choses s'étaient passées parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas d'ambition, parce qu'il n'y a pas de mandat clair.
Et alors, le premier dossier auquel devra s'atteler le nouveau gouvernement, Franck, c'est la lutte contre l'insécurité. Le nouvelliste est retourné dans un lycée de Port-au-Prince, lycée qui avait été victime d'une attaque il y a 15 jours et qui tente de maintenir la tête hors de l'eau dans une agglomération. En guerre, c'est le terme que vous employez.
Tout à fait, c'est le lycée Daniel Fignolet. Le lycée Daniel Fignolet se trouve à la lisière de deux zones compliquées. C'est le bas de Delma et c'est le Bel Air. C'est deux quartiers qui s'affrontent depuis des mois. Le lycée se trouve au milieu de tout ça. Le lycée fait partie des rares établissements scolaires à encore continuer à fonctionner. Les autres établissements privés comme publics ont quasiment mis la clé sur la porte et tout le monde est parti. Le lycée qui fonctionnait en deux groupes, un groupe le matin, un groupe le soir, a dû arrêter de fonctionner le soir. Maintenant, il y a une seule vacation à ce lycée, c'est celui du matin. Et de temps à autre, les élèves doivent se mettre à l'abri. De temps à autre, les élèves paniquent. De temps à autre, tout le monde a peur. Et la semaine dernière, le lycée a même été envahi par des gangs qui, dans leur affrontement, ont pris le lycée comme refuge. Et tout le monde se plaint de cette situation et le nouveau gouvernement devra se colter à ça, sauf que le gouvernement n'a pas beaucoup de moyens et l'autre dossier sur lequel on attend le nouveau gouvernement d'Ariel Henry, c'est les prix des carburants, les prix de l'essence. Le gouvernement devrait monter, comme on dit en Haïti, revaloriser les prix des produits pétroliers. Ce sera un dossier difficile, mais s'il veut avoir des moyens pour combattre l'insécurité, il faut de l'argent. Et pour trouver de l'argent, l'État doit cesser le déficit au niveau de la subvention des prix des produits pétroliers.
Voilà, et toutes ces dernières informations, c'est à lire, à relire sur le Nouvelliste. Merci Franz Duval. Franz Duval du Nouvelliste, comme tous les jeudis sur RFI. Je vous le disais en titre, ce 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Je vous propose d'aborder le sujet vu de deux pays d'Amérique latine, le Chili, où certaines femmes politiques sont victimes de désinformation en raison de leur genre. Mais d'abord, allons au Mexique, où ces chiffres sur ces violences sont vertigineux. En 2020, 3700 femmes ont été assassinées dans le pays. Cette année, les chiffres sont aussi dramatiques. C'est ce que rappelle Edith Olivares. Elle est directrice d'Amnesty International Mexique, elle répondait à Mélissa Barra.
Effectivement, au Mexique, cela fait une dizaine d'années qu'on a des chiffres qui augmentent de façon constante sur les assassinats de femmes et des féminicides en particulier. L'an dernier, on a eu plus de 3700 femmes qui ont été assassinées et cette année, on en est déjà à plus de 2800 femmes assassinées dans le pays.
Le terme féminicide a trouvé son origine en Amérique latine, en particulier au Mexique. C'était dans les années 90, les assassinats de femmes en raison de leurs conditions féminines. 20 ans après les vagues de meurtres de femmes à Ciudad Juárez, dans le nord du Mexique, le terme de féminicide est bien inscrit dans le code pénal depuis une dizaine d'années. Mais pour Edith Olivares, les enquêtes n'avancent pas et le système judiciaire est défaillant.
Approximadamente una tercera parte de los asesinatos de mujeres en México son feminicidios.
Environ un tiers des meurtres de femmes au Mexique sont des féminicides. Mais cette piste n'est pas suffisamment exploitée. Il y a des pertes de preuves. Il n'existe pas non plus d'instruments permettant de conserver des preuves ou de les collecter à temps. Et la question du genre n'est pas prise en compte ou pas suffisamment. Par exemple, les expertises nécessaires pour qualifier le meurtre de féminicide ne sont pas collectées. Le prélèvement vaginal qui permet de déterminer les violences sexuelles, l'examen des ongles pour déterminer si la victime s'est défendue et qui peut aussi permettre de récolter de l'ADN. Ces preuves ne sont pas collectées à temps. Elles se perdent à jamais. Toutes les pistes ne sont pas exploitées jusqu'au bout, ce qui explique pourquoi les dossiers restent ouverts 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans pouvoir être clôturé, sans pouvoir être porté devant les tribunaux.
20 ans sans que se cierre la investigación y se pueda judicializar el caso.
Et les violences contre les femmes s'exercent aussi de plus en plus à travers les réseaux sociaux. De nombreuses femmes politiques sont prises pour cible avec des fausses images ou des fausses informations. Au Brésil, une députée a été victime du cabinet de la haine. C'est ainsi qu'on nomme le cabinet proche du président Bolsonaro qui ont orchestré des campagnes de désinformation. Joyce Hasselman a été attaquée sur les réseaux sociaux comparée au personnage de dessin animé Peppa Pig. Au Chili aussi, des femmes politiques sont prises pour cible pour lutter contre cela, la fondation chilienne Multitude a créé un observatoire des femmes contre la désinformation. L'objectif est de recenser les cas de violence, alerter l'opinion publique sur ces pratiques et aider les victimes. Ana Quijada est coordinatrice de cet observatoire qu'elle a présenté lors du Forum de Paris sur la paix.
L'Observatoire des femmes contre la désinformation veut que la désinformation soit reconnue comme une forme de violence politique fondée sur le genre. Les victimes sont notamment des femmes qui se présentent à des élections. L'objectif est de les décrédibiliser et de les évincer de la sphère publique à travers la divulgation de fausses informations. Par exemple, le cas de la présidente de l'Assemblée constituante au Chili, chargée d'élaborer une nouvelle constitution. C'est une femme mapuche. Elle est visée par des attaques sur les réseaux sociaux, des fausses informations sur elle. Et ces attaques ciblent le fait qu'elle soit une femme et qu'elle appartienne au peuple autochtone des Mapuche. Lorsque nous avons mis en place cet observatoire, nous avons fait une enquête auprès des parlementaires chiliennes pour savoir si elles avaient déjà été confrontées à des fake news comme une forme de violence de genre. Et 96% de celles qui ont répondu ont affirmé qu'elles avaient effectivement été exposées à ce type de violence, que ce soit pendant leur campagne électorale ou dans leur activité politique quotidienne. Ce qui était curieux, c'est que beaucoup d'entre elles, au moment de nous parler, se sont vraiment rendues compte à quel point ces pratiques constituent une forme de violence. En fait, elles les avaient intégrées comme étant normales, faisant partie de leur vie.
Ana Quijada au micro d'Achim Lipold.
Le journal de l'Outre-mer.
Et le journal de l'Outre-mer présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Marion.
En Martinique, les premières négociations doivent en principe s'ouvrir aujourd'hui.
Oui, le préfet Stanislas Cazel aurait finalement accepté un compromis élaboré sous l'égide de la collectivité territoriale. Les discussions entre l'intersyndicale et l'État devraient donc s'ouvrir à 10h locales ce matin, 15h cet après-midi, heure de métropole. Négociations dans un climat pas vraiment apaisé, où la confiance en tout cas ne règne pas pour l'instant. Écoutez Éric Belmar de Force Ouvrière, porte-parole de l'intersyndicale, au micro de Pierre-Yves Honoré.
Que de temps perdu, que d'énergie pour finalement rejoindre nos positions, parce que c'est ce que l'intersyndicale avait réclamé depuis le lundi 22. Et nous avons perdu tant de temps du fait uniquement d'une posture d'un préfet qui voulait à tout prix imposer sa façon de voir dans l'établissement du dialogue social en Martinique. On va y aller, on va s'asseoir et on va écouter et on va commencer à voir, on va commencer à discuter pour savoir si vraiment on est dans une volonté de dialogue et de vouloir sortir de cette situation de crise.
Voilà pour la Martinique. En Guadeloupe, la mobilisation continue également. Hier matin, le collectif mené par le LKP organisait un rassemblement sur un rond-point des abîmes. Un reportage Claudia Le Désert.
Pour marquer le 10e jour de grève générale, l'intersyndicale souhaitait montrer que la mobilisation ne faiblit pas. Bien au contraire, de nombreux citoyens étaient présents, bien décidés à ne pas lâcher.
Il faut absolument qu'on se mobilise, parce que c'est une question de vie ou de mort.
C'est fondamental de montrer que ce n'est pas un mouvement isolé, que ce n'est pas un mouvement d'une minorité, mais c'est un mouvement populaire.
Plusieurs membres du personnel soignant suspendu étaient aussi au rendez-vous, comme Pascal, infirmière au CHU.
Nous toutes, on est suspendues depuis le 3 novembre et c'est qu'une toute petite partie du personnel. Une partie depuis le 13 octobre est suspendue sans salaire, sans le droit à un revenu minimum, sans le droit à rien en fait.
Face à ce qu'ils considèrent comme de la surdité et de l'inaction de la part de l'État, les responsables syndicaux appellent à renforcer le mouvement. Ronny Tillet, secrétaire général CGTG-CHU, aide-soignant aux urgences.
Ce n'est pas seulement une fois que le pass sanitaire sera abrogé. Il faut embaucher du monde. Il faut la titularisation des contractuels. Il faut aussi la hausse des salaires. Il y a tout ça.
Les organisateurs n'avaient pas prévu de discours ou de grandes marches afin de ne pas démobiliser les barricadiers à travers la Guadeloupe. Les manifestants ont toutefois défilé dans d'Otémar avant d'être freinés par les forces de l'ordre. Après tractation et un moment tendu, le cortège s'est finalement remis en route pour retourner au rond-point de Perrin.
Bon après-midi, Marion. À demain.
À demain, merci. Benoît Ferrand, c'était le journal de l'Outre-mer. Ainsi s'achève cette tranche d'information des Amériques et d'Haïti. Rendez-vous demain à la même heure, 13h10, temps universel, pour une nouvelle édition.